Voilà, nous sommes heureux encore une fois de plus de partager la parole du Seigneur. On va lire un premier texte dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, livre du Deutéronome au chapitre 18. On va partager une prophétie ce soir, et avant de la partager avec vous, je voulais revenir sur des notions qu'on ne partage pas forcément souvent. Et je crois qu'il y a vraiment pour nous cette importance de toujours réaliser que ce qui est le plus important pour notre vie, c'est la parole du Seigneur. Parfois, il y a plusieurs interprétations, vous savez, un petit peu dans... J'ai pu, en regardant il y a quelques années... l'origine de certaines sectes, être bouleversé de voir que eh bien, la plupart se fondaient sur des textes de l'Écriture tels qu'on les connaît, tels qu'on les médite, mais qu'ils sont interprétés, déformés. Et je crois qu'il est important pour nous de toujours revenir à ce que nous déclare la parole de l'Éternel et faire attention parfois à la parole de l'homme. Et je voudrais justement rappeler cette dimension prophétique de la parole de Dieu et regardez et rappelez peut-être ce qui donne du crédit véritablement à un prophète, à une prophétie, selon la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 18, verset 21, il est écrit ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. C'est par audace que le prophète, dans d'autres textes de la parole de Dieu, il est parlé des faux prophètes ou des prophètes mensongers, c'est-à-dire des hommes qui vont utiliser soi-disant la parole de l'Éternel. Et en fait, ce qui pourra permettre de donner du crédit à la parole, ou alors de jeter un discrédit sur cette parole, eh bien tout simplement, comme dit la parole de Dieu, eh bien c'est que ce qui aura été dit n'aura pas lieu. Et je voudrais revoir avec vous dans 1 Samuel. Regardez dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, le témoignage qui nous est laissé d'ailleurs de Samuel concernant cette dimension prophétique tel qu'on vient de le lire dans le Deutéronome. Samuel avait cette reconnaissance devant l'Éternel d'un prophète qui véritablement parlait de la bouche de l'Éternel parce que ce qu'il disait arrivait. 1 Samuel 3, 19, il est écrit ceci, « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. » Parfois on a mal interprété ce verset parce que alors il n'est pas faux de considérer que c'est Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Mais en fait, c'est l'Éternel qui était avec lui, qui ne laissait aucune des paroles de Samuel sans effet. Et si vous lisez le verset 20, il est dit ceci, « Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que ce qu'il disait s'accomplissait. » Selon ce que nous voulons de lire dans le Deutéronome, ce qui accrédite un prophète, eh bien c'est que la parole qu'il prononce, elle s'accomplit. C'est pour ça que l'Éternel ne laissait tomber aucune des paroles. Elles étaient toujours avec de l'effet parce qu'elles étaient selon la parole de l'Éternel. Regardez au chapitre 9, toujours du même livre, 1 Samuel chapitre 9. Regardez, au verset 3, il y a une petite histoire, on lit juste quelques versets, il est dit au verset 3, « Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Et si vous regardez au verset 6, il est dit ceci, c'est le témoignage qui est donné de Samuel, « Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit, ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » La Bible est vraiment la parole de Dieu. Elle n'a rien de commun avec la parole de l'homme. Et je voulais reconsidérer, rappeler ce qui donne du crédit à la prophétie, puisque tout à l'heure on va lire une prophétie qui s'est parfaitement accompli en Jésus-Christ et qui a énormément de valeur pour nous encore aujourd'hui. Et je dirais même que c'est important toujours de la considérer. C'est une prophétie qui s'est pleinement accomplie en Jésus-Christ. Et je voulais rappeler, véritablement, parce que vous savez, dans le ministère de la prophétie, ou même quand on voit certaines personnes qui se permettent de parler de la part de l'Éternel, je voulais rappeler ce qui donne véritablement crédit à une prophétie selon la Bible, afin que nous soyons protégés, peut-être que nous fassions attention et que nous ne donnions pas forcément crédit à tout ce que nous pouvons entendre, mais si les faits s'accomplissent, la prophétie est accréditée. Et on peut dire que véritablement la parole de Dieu, la Bible telle qu'elle nous est laissée, est vraiment un message qui est inspiré de Dieu lui-même, qu'il nous a révélé, et c'est important pour nous, nous le rappelons régulièrement, mais de fonder notre foi et notre confiance dans ce que Dieu a déclaré, bien plus que dans ce que les hommes vont déclarer, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien souvent ils fondent leur prophétie sur la parole de Dieu. Regardez ce texte avec moi dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er. On va lire à partir du verset 19. Pour comprendre véritablement que nous devons considérer la Bible comme la parole de Dieu et qu'elle n'a rien de commun avec la parole de l'homme. Je vais vous le lire, c'est pas grave, je vais vous le lire dans la version Semeur. On ne va pas être très très loin de vos versions. Quelqu'un a la version Semeur? Personne? De plus, donc 2 Pierre 1 verset 19, « De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention. » Car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez, avant tout, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Ça, c'est beaucoup divergent par rapport à ce que vous avez dans la Bible. Ça va, vous arrivez à suivre? Ok. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, comme nous venons de le voir dans l'expérience de Samuel. Chapitre 2, verset 1er, « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël, et il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention, mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Amen. » C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, je voulais juste en introduction rappeler un peu ces dimensions de la prophétie, parce que, eh bien, vous savez, on vit des temps particuliers parfois, on peut être influencé par certaines choses, et en relisant ces versets que nous venons de lire, je pensais notamment à tout ce qu'on appelle l'évangile, vous savez, de la prospérité, où il est mis en avant l'abondance matérielle, qui est comme un signe de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Enfin, il y a beaucoup de faux évangiles autour de nous. Et alors, est-ce que c'est aussi par le moyen d'Internet? Peut-être que parce que nous avons accès, en tout cas, à une multitude d'informations. Toujours rappeler qu'au-delà de la parole de l'homme, même qu'il se servirait de la Bible, nous devons toujours baser notre foi et notre confiance dans ce que le Seigneur a inspiré pour chacun de nous au travers des Écritures. Et combien je vous encourage à noter les versets, les lire, les méditer vous-même, pour que vous puissiez vraiment enraciner votre foi sur ce que Dieu a dit, au-delà de ce que les hommes ont pu déclarer. Alors on va lire cette prophétie que je voulais partager avec vous ce soir dans Jérémie au chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Et on va lire au verset 14, donc prophétie qui s'est parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Nous ne reparlerons pas de toute cette œuvre, mais juste cette notion, et c'est ça sera le titre de notre partage ce soir. Jérémie 33, verset 14, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. » Et c'est le titre de notre message ce soir. L'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Dieu a parlé par la bouche du prophète Jérémie. Il a annoncé la venue de Jésus-Christ comme cette descendance de David qui serait notre justice. « Je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Il y a quelques années, c'est un message que je partageais uniquement dans le cadre de l'évangélisation. Mais je réalise de plus en plus et je le considère tout aussi important pour les chrétiens parce que nous devons toujours, du premier jour où nous avons rencontré le Seigneur, eh bien jusqu'au jour où il nous prendra avec lui, toujours considérer que la justice que nous possédons devant l'Éternel, ce n'est pas la nôtre, hein. C'est celle que lui nous a accordée au travers de Jésus-Christ. Jésus, notre justice. Et le premier point que nous pouvons rappeler ce soir, c'est que Dieu veut que nous soyons délivrés, les uns et les autres, de toute notion de propre justice. Et je sais que c'est quelque chose qui peut paraître plus évident pour des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui découvrent l'Évangile, mais je peux vous assurer que même quand on a marché des années et des années avec le Seigneur, nous devons toujours nous rappeler que le Seigneur, nous sommes agréables devant le Seigneur lorsque nous sommes toujours débarrassés de toute notion de propre justice. Vous savez, regardez, on va le lire ensemble. Dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, vous savez comment le Seigneur Jésus a souvent demandé aux disciples de ne pas porter les inquiétudes, vous savez, sur les choses de la vie. Pourtant, il y a de quoi s'inquiéter. Dans certaines situations, il y a de quoi être inquiet dans certaines situations. Et pourtant, le Seigneur nous encourage. Matthieu chapitre 6, on peut lire par exemple le verset 31, il est dit ceci. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être inquiet, on s'occupe, on organise notre vie, en tout cas c'est important. Mais ce que le Seigneur Jésus a voulu surtout insister dans ce passage, c'est que pour lui, la seule inquiétude véritablement acceptable devant lui, c'est ce qu'il dit par la suite, « Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses qui ont été énumérées plus haut vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce que veut dire le Seigneur, c'est que nous devons faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. C'est ça peut-être la différence aussi. Ce qui est juste à ses yeux. La justice de Dieu doit être notre préoccupation première tout au long de notre vie. Nous devons nous préoccuper de connaître sa justice à lui, ce qui est juste à ses yeux et qui a été manifesté pleinement en Jésus-Christ selon la prophétie de Jérémie que nous avons lue tout à l'heure. Alors on peut se poser une simple question. On n'est pas nombreux, on aurait presque pu faire un petit partage ce soir autour de ce thème. Qu'est-ce qui est juste à mes yeux ? Parce que vous savez, alors c'est peut-être plus évident, comme je disais tout à l'heure, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, parce que c'est vrai qu'avant de connaître l'Évangile, il y a toujours, je dis parfois que chacun a son propre Dieu. On a notre propre notion de justification devant Dieu. Mais on peut se poser cette question, même nous en tant que chrétiens, est-ce que ce qui est juste devant Dieu pour nous, à nos yeux, c'est d'avoir une bonne moralité ? Est-ce que ce qui est juste pour nous, à nos yeux, c'est de vivre dans la droiture, de fuir le mal, de faire le bien, peut-être de ne pas céder aux tentations de la chair. Qu'est-ce qui est juste à mes yeux? Est-ce que c'est de respecter mon prochain, c'est d'être fidèle à Dieu, d'aller à l'église, de prier, peut-être d'être un conjoint fidèle, d'être honnête, etc., etc. Qu'est-ce qui est juste? Et pourquoi je dis qu'on peut se poser la question même en tant que chrétien? Parce qu'en discutant des fois, en échangeant et en voyant certaines situations, on se rend compte qu'on peut aussi être amené, lorsque nous nous abandonnons moins facilement entre les mains du Seigneur, nous pouvons nous aussi créer une forme de propre justice. Peut-être qu'en voyant certaines personnes, même que nous les considérons justes devant le Seigneur, par leur comportement. Il y a des gens qui ont, et même on peut dire dans le monde, des gens qui ont des vies exemplaires, et on peut les considérer comme des personnes justes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un piège, bien sûr pour les non-croyants, mais aussi peut-être pour les croyants, de se croire juste peut-être à un moment donné, à cause de l'excellence de notre conduite? On doit grandir dans la marche avec le Seigneur, on doit rechercher l'excellence dans la droiture, dans l'honnêteté, on doit chercher l'excellence à faire le bien, à aimer notre prochain, on doit chercher l'excellence dans toutes ces choses-là, mais surtout, ne pas y cultiver la moindre notion de propre justice qui pourrait à nos yeux nous rendre favorables devant le Seigneur. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Dieu n'accepte pas qu'un homme, un homme pécheur, puisse trouver en lui une forme de justice, quelle qu'elle soit, qui serait basée sur les efforts de la chair. Et quand on regarde la parole de Dieu, je pensais à ces versets, ne les cherchez pas, même si j'aime bien vous faire promener dans la parole de Dieu et chercher les versets, je vais quand même chercher celui-là pour vous. Il y a cette parole qui a été adressée à Ésaïe. Ésaïe, pourtant, c'était le prophète Ésaïe, c'était vraiment quelqu'un qui a parlé, je repensais à ces versets en préparant le message que nous a rappelé mardi soir Janson, c'est dans Ésaïe 53, quand on voit la précision de cette prophétie qui annonçait la mort de Jésus-Christ, on peut dire véritablement que Ésaïe était un prophète entre les mains de l'Éternel, et pour autant, cet homme de Dieu remarquable, eh bien, il avait besoin d'être purifié par Dieu. Et quand il a été, à un moment donné, confronté à la présence de l'Éternel, il dira ceci, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Pourtant, quand vous regardez les prophéties, quand vous regardez comment il a été un instrument béni entre les mains de Dieu, eh bien, il ne regarde pas cela comme un axe de faveur devant l'Éternel, mais il dit tout simplement « Je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Et tout autant prophète de Dieu, remarquable qu'il était, il avait besoin d'être purifié par Dieu. Et les versets suivants sont ceux-ci. « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Vous avez ces versets dans les premiers versets de Ésaïe au chapitre 6. Qui que nous soyons, et quoi que ce soit que nous ayons pu faire ou que nous pouvons faire ici-bas, nous devons réaliser qu'il n'y a rien de bon en nous. Je suis désolé pour le côté mauvaise nouvelle. Il n'y a rien de bon en nous qui puisse nous faire apparaître comme justes devant Dieu. Et l'apôtre Paul met tout le monde sur le même pied d'égalité dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il dit ceci, l'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, dans Romains au chapitre 3 et au verset 10. Et je vous cite aussi cette autre parole du prophète Ésaïe, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, elle est comme un vêtement souillé dans Ésaïe au chapitre 64 et verset 5. Et toujours sur ce thème, je vais terminer ce point. Dieu veut que nous soyons délivrés de notre propre justice en parlant du témoignage de l'apôtre Paul. Je trouve que l'apôtre Paul est un homme remarquable par son degré d'humilité. Il a reçu des révélations extraordinaires. Il y a eu beaucoup de puissance aussi au travers de son ministère. Il est vrai que l'Éternel, dans sa sagesse, avait mis cette écharpe dans sa chair pour justement qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Et je trouve remarquable son attitude d'humilité, cet homme qui a été vraiment un instrument béni entre les mains de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse relire le témoignage de l'apôtre Paul, parce que je trouve qu'il sait, lui, comment se comporter, et il sait parfaitement combien nous, les uns et les autres, nous sommes misérables sans la justice de notre Dieu. On l'appellera l'Éternel, notre justice. Alors là, on va le lire ensemble dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3. C'était compliqué de suivre si je vous lis encore dans Semeur ou ça va? Ça va? Ça vous choquait pas trop? Philippiens chapitre 3. C'est vrai que les différentes versions, des fois, ça nous trouble un petit peu. Mais c'est intéressant, parfois, de les confronter, parce que ce n'est pas qu'il y ait plusieurs interprétations de la parole de Dieu, pas du tout. Mais c'est que, voilà, suivant les temps, l'évolution des langages et tout ça, etc., il y a une meilleure compréhension du texte. Et moi, je trouve que, justement, quand on peut lire deux ou trois versions, enfin, il y en a certaines qui sont, pour moi, comme des repères, on précise encore mieux la pensée que le Seigneur a voulu. Alors, je vais faire comme j'ai dit, je vais lire dans Philippiens 3, verset 1er, dans la version Semeur. « Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter, en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Regardez verset 9, ce témoignage qui doit être pour nous un témoignage puissant. Mon désir et d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Amen. Être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Il dit dans ces versets qu'il pourrait, en tout cas lui, prétendre eh bien, à considérer certaines choses comme étant des choses qui pourraient le justifier devant Dieu, en tout cas le considérer comme juste. Et pourtant, il regarde tout cela comme quelque chose, comme du rebut. Il dit même qu'il préfère abandonner tout cela afin de considérer véritablement que ce qui est juste, c'est la justice qui s'obtient par la foi. On l'appellera l'Éternel, notre justice. Je voudrais terminer par ce deuxième aspect. Donc le premier aspect, c'était Dieu veut que nous soyons délivrés de notre propre justice, de toutes ces notions de suffisance personnelle. Et Dieu nous offre sa justice par le moyen de la foi. Et ça, c'est bien sûr le formidable message de l'Évangile que nous partageons ce soir, qui est rappelé encore au travers de ces chants. Dieu offre à tous les hommes sa justice, sa justice par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et ça, ça fait toute la différence. Vous voyez, des fois, quand on vient de certaines religions, on a mis beaucoup en avant tout ce que l'on peut eh bien, faire, tout ce que l'on doit faire pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Quel bouleversement l'Évangile ! De réaliser que c'est Dieu lui-même qui a tout accompli et qui nous offre par le moyen de la foi sa justice à lui, c'est le moyen d'être favorable. Et on va le relire ensemble dans Romains au chapitre 3. Romains chapitre 3. L'épître de Paul aux Romains. Au chapitre 3, et on lira à partir du verset 21. Là, je dois être plus proche de votre version. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Verset 26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Formidable verset qui nous montre de manière excellente dans ce que nous dit l'apôtre Paul, que Dieu nous offre. Il nous offre gratuitement, c'est marqué au verset 24, ils sont gratuitement justifiés, c'est toute la dimension de la grâce. Dieu offre à tous les hommes sa justice, c'est la justice de Dieu. Hein, au verset 22, pardon, justice de Dieu, c'est sa justice à lui par la foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous nous rappelons encore ce soir qu'au travers de la mort de Jésus-Christ à la croix du calvaire, Dieu à expier nos péchés. C'est le moyen qu'il pouvait être juste. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui allaient placer leur foi en Jésus-Christ, ils allaient être justifiés. Dieu ne veut pas que nous nous présentions devant lui avec notre justice. Dieu veut nous sauver, comme cela a été rappelé au travers de ce chant. Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous réconforter, Dieu veut nous consoler. Dieu veut agir dans notre vie. Et le tout accompli à la croix nous rappelle encore ce soir que tout est prêt pour chacun d'entre nous. Dieu nous a donné tout parfaitement en Jésus-Christ. Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous rendre justes. Et il n'exige qu'une chose. Il n'exige qu'une seule chose pour nous, c'est la foi. Avoir la foi. Croire, recevoir. Croire que ce qu'il a dit est la vérité et que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est inspiré par le Saint-Esprit que ces hommes ont écrit la parole de Dieu et que cette parole, elle s'accomplit. Celui qui croit au Fils, il a la vie. Par la foi, j'obtiens la faveur et la grâce de Dieu. C'est intéressant peut-être de regarder. Je vais le lire. Dans le témoignage d'Abraham, après on va rester dans Romains ensemble, mais je vais vous lire le témoignage d'Abraham qui a été considéré par la parole elle-même, le père de tous les croyants. Il est dit ceci, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et il est écrit ceci, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » J'ai lu les quelques premiers versets de Genèse au chapitre 15. C'est cet acte de confiance, on pourrait l'appeler ainsi les prémices de la foi en Dieu, cette confiance inébranlable dans la parole que l'Éternel avait prononcée, c'est cet acte de confiance, et uniquement cet acte de confiance, qui a rendu Abraham juste devant Dieu, l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il est le père de tous les croyants, c'est-à-dire l'exemple pour nous aussi de recevoir la même justice pour prix de notre foi. Alors regardez, vous êtes dans Romains, regardez au chapitre 4. Romains chapitre 4. Nous pouvons nous aussi recevoir pour prix de notre foi cette justice qui vient de Dieu. Romains 4 verset 18, c'est des versets que nous rappelons souvent, mais ils sont extraordinaires. Espérant contre toute espérance, il est question d'Abraham, il crut et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. C'est les versets que je viens de vous lire tout à l'heure dans Genèse. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et regardez le verset 23. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Amen. Dieu nous offre sa justice. On l'appellera l'Éternel, notre justice. Tout comme Abraham a été couvert de la justice de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a cru, parce qu'il a eu confiance en la parole de Dieu. Nous aussi, nous pouvons être trouvés justes devant Dieu chaque fois que nous plaçons notre foi et notre confiance en lui, dans sa parole, dans le sacrifice de Jésus. C'est pour la seule et même raison que nous pouvons être trouvés justes devant Dieu. Un autre texte de la parole dit ceci, « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, dans Galates chapitre 3 et le verset 6. On l'a lu tout à l'heure, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est vrai qu'à la croix du calvaire, nous réalisons qu'il y a cette dimension de bénédiction pour chacun d'entre nous qui plaçons notre foi en Dieu, mais il y a aussi cette dimension de malédiction. Il fallait que Jésus porte et paye cette malédiction qui devait tomber sur nous. Il fallait que la grâce, mais aussi la justice de Dieu, soit en plein accord. Eh oui, à la croix, le pécheur peut être justifié. Pourquoi ? Parce que Dieu a été pleinement juste. Dieu aurait pu très bien essayer de dire, eh bien, écoutez, j'efface l'ardoise de vos péchés sans le sacrifice de Jésus, mais il n'aurait pas été juste parce que notre péché méritait un salaire et le salaire, c'était la mort. Si Dieu avait accordé son pardon au pécheur sans le sacrifice de Jésus, oui, nous aurions été graciés. Mais Dieu n'aurait pas été juste. Il montre sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le châtiment a été subi par le Seigneur Jésus-Christ. La peine de nos fautes a été expiée à la croix. Dieu a été juste. Et il souhaite déclarer juste celui ou celle qui se confie en Jésus-Christ le Rédempteur, celui que la parole de Dieu a déclaré qu'on l'appellerait l'Éternel, notre justice. Et je termine par ce verset que je vous cite de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il dit ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Afin que nous devenions en lui justice de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 21. L'Éternel, notre justice. Voilà, que Dieu nous aide dans sa grâce à nous débarrasser. Je disais tout à l'heure que c'est vrai que c'est un message que je partageais exclusivement dans le cadre de l'évangélisation, mais je me rends compte que, vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, et c'est bien que nous puissions faire des progrès, et nous devons les faire. Nous devons grandir, avancer, grandir dans la foi, nous devons grandir dans notre relation avec le Seigneur, mais du début jusqu'à la fin, toujours avoir cette humilité comme l'avait l'apôtre Paul, et que nous lisons vraiment comme nous l'avons lu tout à l'heure dans sa parole, de vraiment toujours réaliser que nous ne pourrons pas nous approcher de Dieu avec toute notion de propre justice. Ça a été d'ailleurs le défaut parfois des pharisiens, des scribes, vous savez, quand Jésus a été obligé de les reprendre souvent, parce que, eh bien, il reposait cette justification sur l'exercice, l'œuvre de la loi, et le Seigneur Jésus veut leur rappeler que ce n'est pas ce qui permet à un homme d'être trouvé juste devant lui. Et c'est vrai que l'apôtre Paul nous donne un témoignage extraordinaire. Gardons-le à notre esprit, dans notre cœur surtout. Voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice, que son nom soit béni.